Scene one, Apple, take two.
En direct de Cannes, voici La Passion du 7e art.
La passion du 7e art, bonjour, samedi 20 mai, toujours sous la pluie à Cannes.
Ah, ça devient agaçant, les conditions de travail sont agaçantes, mais avec la pluie en plus, ça commence à faire beaucoup, oui.
Mais on a le plaisir de vous retrouver, cher Pascal Guémard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au micro, vous allez nous parler de plusieurs films aujourd'hui que vous avez pu voir, bien sûr, hier. On commence par un film qui s'appelle Eureka, qui était présenté à Cannes Première. Et c'est un film qui nous vient d'Argentine, de Lisandro Alonso, qui avait fait il y a déjà longtemps La Libertad, Los Muertes, Fantasma, et le dernier c'était La Roria.
Ah oui, c'était un très beau film.
Qu'est-ce que
présenté
raconte
un certain regard.
Qu'est-ce que raconte ce film présenté à Cannes Première?
Oui, alors on va pergoter sur le fait que Cannes Première, on comprend toujours pas la création de cette nouvelle catégorie, hormis pour recycler des films qu'on aurait aimé voir, mais qu'on n'a pas pu caser dans les autres catégories officielles. Mais bon, ça c'est que Thierry Frémaux qui en a la réponse. Ce film-là, il était très attendu parce que bien sûr, on parle d'Amazonie, on parle d'Indiens, on parle de chaman, on parle de rêve. C'est un film très compliqué à suivre. Il y a des histoires qui s'entremêlent. Un western, une histoire d'aujourd'hui, d'Aliana, qui a beaucoup de travail en tant qu'officier de police dans la réserve de Pine Ridge. Et puis, il y a ses rêves d'un temps d'avant, peut-être un temps idéal, où les Indiens pouvaient vivre en osmose avec la nature comme ils le souhaitaient. Ben, nous, on a adoré le film. Hein. Ça, c'était prévu d'avance. Alors, il y a peut-être quelques petites longueurs de ci, de là, mais en tout cas, c'était, quand on a vu le film, la meilleure chose que l'on ait vue, avec bien sûr la comtesse Jeanne Dubarry, qu'on a vue en ouverture, et on continue à défendre ce film. Donc oui, il était hors compétition, puisqu'il était à Cannes Première, mais c'était quelque Eureka aurait mérité la compétition officielle.
Alors, parlons justement de la compétition officielle, avec un film qui s'appelle Les Filles d'Olfa, de Kauter Benania. Elle est tunisienne. On la connaît depuis 2014 avec Le Chalat de Tunis. On pourra citer aussi La Belle et la Meute en 2017 et enfin en 2020 L'Homme qui a vendu sa peau avec l'actrice que vous adorez, Monica Bellucci.
Eh oui.
Donc on n'a pas Monica Bellucci cette fois-ci. C'est un film de femme. C'est la vie d'Olfa, tunisienne et mère de quatre filles.
Oui, alors, la fille d'Olfa nous a posé un petit problème parce que ce sujet nous pose un problème. Comment des filles peuvent se prostituer pour Daesh et partir faire le djihad? C'est quand même quelque chose qui pose question, notamment quand en France, on est dans des familles bourgeoises et que ce genre de choses arrive. Là, nous sommes dans une famille pauvre, le père est violent, il a abandonné ses enfants. Est-ce que cela justifie cela? On ne sait pas, parce qu'il y a deux filles qui sont normales, entre guillemets, et les deux autres qui sont parties. Là où Kauter Benania est intelligente, c'est qu'elle nous livre un montage qui nous rend complices. C'est-à-dire qu'en fait, des personnages réels du film, les deux sœurs et la mère, côtoient l'actrice qui va jouer le rôle de la mère et deux autres filles qui vont jouer le rôle des deux gamines qui sont parties se prostituer pour Daesh. C'est que des allers-retours et au final, elle n'excuse personne. Elle montre les ambiguïtés de la mère, elle-même, et c'est peut-être le premier film qui essaie de faire une approche de ce drame-là. Mais effectivement, ça pose question, ce film. Et Kauter Benania n'essaie pas forcément d'en donner des réponses catégoriques. Voilà.
Alors, autre film en compétition, un film très attendu d'un génie qui nous vient de Turquie, qui s'appelle Nuri Bilge Ceylan, qu'on connaît bien à Cannes. Je vais citer juste Les Climats en 2006, Les Trois Singes en 2008, Il était une fois en Anatolie, en 2011, et enfin Winter Sleep, qui, je me souviens bien, a eu la Palme d'Or.
Que j'avais annoncé.
2014.
Que j'avais annoncé.
Le retour, donc,
c'est
presque.
C'est vrai que vous le dites, que je l'ai annoncé.
Que vous aviez annoncé. Le retour, donc, presque 10 ans après, de Nuri Bilge Ceylan, avec Les Herbes Sèches. L'histoire, c'est Samat, qui est un jeune enseignant dans un village reculé d'Anatolie, alors qu'il attendait depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul. Une série d'événements lui fait perdre tout espoir, jusqu'au jour où il rencontre Nuret, jeune professeur comme lui.
Oui, alors, avec Nuri Bilge Ceylan, c'est vrai qu'on a tendance à apprend son mal en patience quelque part, puisque ces films durent toujours 3 heures. Je vous savais très bien, puisqu'on en avait discuté à ce micro lors du Festival de Cannes, puisque dix films, il a fait 10 films, Noémie Bilcélan, et 7 ont été présentés à Cannes, et la plupart avec des prix d'ailleurs. Et moi, jusqu'à Winter Sleep, c'était pas ma cam, hein, Noémie Bilcélan, les plans séquences de 15-20 minutes dans Anatolie, ça m'avait très très vite gonflé. Mais force est de reconnaître que quand on a vu Winter Sleep, on a vu un film remarquable, un chef-d'œuvre qui mérite et qu'on avait annoncé comme Palme d'Or. Là, je ne dis pas que c'est un film qui pourrait avoir la Palme d'Or, je dis que c'est quelque chose qui pourrait figurer aisément au palmarès avec peut-être un prix du jury. Mais en tout cas, Noémie Bilcélan, on voit bien qu'il est arrivé à une maturité et ce qui fait quand même drôlement bien.
Alors, encore un film en compétition, le troisième. Jonathan Glazer, c'est pareil, c'est un cinéaste qui est très économe, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il n'a tourné que 3 films. Sexy Beast en 2000, un chef-d'œuvre absolu avec Nicole Kidman qui s'appelle Burf en 2004. Et 2013, donc ça fait 10 ans aussi, Under the Skin, il revient donc en compétition avec un film qui s'appelle The Zone of Interest. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Hoss, et sa femme Edwige s'efforcent de construire une vie agréable pour leur petite famille dans un pavillon avec un jardin non loin du camp. Alors qu'une mutation vient menacer tout ce qu'ils ont bâti, Edwige refuse de quitter la maison de leurs rêves.
Oui, alors là, Jonathan Glazer, c'est quand même compliqué de le classifier, ce réalisateur, de lui donner une étiquette, comme on aime bien en France donner une étiquette à un réalisateur. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu de mieux en compétition officielle, et pour moi, c'est la Palme d'Or à aujourd'hui. Voilà. Après la conférence, voir un tel film où on voit les fumées des camps de concentration tout près, juste derrière un mur, où de l'autre côté, il y a des jardins, des fruits, des légumes,
on vit en autarcie. C'est le paradis.
C'est le paradis sur Terre, c'est un Éden. Où règne sur cet Éden une actrice qui mériterait aussi peut-être d'avoir un prix d'interprétation féminine, c'est Sandra Hüller, qui est magnifique dans le film, extraordinaire. Et qui manage tout ce petit monde pour que son mari puisse se consacrer entièrement à son travail, harassant. Il ne pense qu'à ça et tout, et il ne pense qu'à tuer des juifs et autres, tziganes et autres, qui brûlent, dont ces cheminées que l'on voit à l'horizon. C'est surprenant. Il y a ce personnage, la mère d'elle, qui vient en vacances dans ce paradis, et l'autre lui fait visiter son paradis et qui va partir, parce que ça lui pique les bronches, et puis parce qu'elle se rend compte de l'ignominie. Que par contre, la mère, la Sandra Hüller, ne se rend pas compte du tout et est dans le déni le plus complet. Et d'ailleurs, quand on lui propose de partir, elle ne veut pas. Elle veut qu'on reste dans ce paradis terrestre qu'elle a créé elle-même. Elle le dit, j'ai créé un paradis sur Terre. Alors que de l'autre côté, c'est l'enfer.
Mais est-ce que c'est un film qui a choqué les spectateurs ? Par son histoire, justement.
C'est un film qui bouge. Vous pouvez pas sortir de ce film-là en disant que vous êtes le même en entrant. C'est pas possible. Et je crois que c'est ça le devoir de Cannes.
C'est ça
aussi
le cinéma.
De faire du cinéma en général, et à Cannes en plus particulier, parce qu'on sait très bien qu'à Cannes, on a normalement ce genre de film en vision. Donc moi, le Jonathan Glazer, bravo, bravo. Faut dire quand même un mot sur Christian Friedel, qui est donc Rudolf Hoss, qui est l'acteur principal, parce que bon, il n'y a pas de grand homme avec une grande dame, une femme à ses côtés, mais là aussi, il n'y a pas de grande femme avec un homme à ses côtés. En tout cas, nous, à aujourd'hui, c'est vrai que malgré la pluie, la journée d'hier a été plutôt fructueuse.
On termine très rapidement avec un film présenté à un certain regard. C'est un film chinois de Wei Shun-jun. Je ne sais pas très bien comment on prononce ce nom chinois. Ça s'appelle Only the Rivers Flows.
Oui, alors on en parlera peut-être un peu plus longuement la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est un très beau film qui nous a fait oublier le marasme de jeunesse en compétition officielle. Ce documentaire hyper long de 3h32.
Voilà, merci Pascal, on se retrouve demain pour de nouveaux avis sur, bien sûr, les films présentés en ce festival 2023. Depuis notre studio, installé chez notre partenaire, le restaurant La Boussole Carrée, 3 rue La Fontaine, à Cannes. Merci Pascal et à demain.
À demain.